La forteresse assiégée. Depuis longtemps, la forteresse était assiégée et nulle chance de salut n'apparaissait. Les principaux chefs avaient été tués. De l'armée florissante qui naguère défendait ses murs, il ne restait que quelques centaines d'hommes décharnés par la faim, les fatigues et les blessures. Car les vivres manquaient et bientôt même les munitions seraient finies. On pouvait prophétiser, presque à coup sûr, le jour et l'heure où la forteresse devrait se rendre. Devant les murs, où des brèches énormes paraissaient, l'armée assiégeante attendait tranquille l'heure fatale de la reddition. Elle guettait sa proie et devenait plus insolente à mesure que son facile triomphe devenait plus proche et plus certain. Dans la forteresse, lamentations, gémissements, pleurs de rage, dehors, cris de joie, chants de soldats ivres, de curés, voilà ce qu'aurait entendu le spectateur placé entre les deux armées. Ce jour-là, un grand conseil des premiers officiers se tenait dans le bâtiment principal de la forteresse. Il s'agissait de décider la grande question : faut-il se rendre ou périr sous les ruines de la place ? On avait envoyé un parlementaire à l'ennemi pour savoir quelles conditions il ferait aux défenseurs malheureux. Aucune, avait-il été répondu, rendez-vous à discrétion. Et l'on se demandait avec crainte ce que cela voulait dire. Quand le conseil de guerre fut réuni, le président se leva. Il exposa que les vivres étaient épuisés, que les munitions allaient bientôt l'être, que les brèches ne pouvaient plus être réparées, que les soldats étaient exténués et découragés. Quand il eut fini, un morne silence régna longtemps. Enfin, l'un des plus vieux officiers prit la parole. « Le courage est une bonne chose, dit-il, et je crois avoir fait mes preuves. Mais le courage devient folie quand on lutte dans de pareilles conditions. J'opine pour que nous rendions la place. » Beaucoup approuvèrent du geste. Ces hommes au teint hâlé étaient devenus là comme des femmes. Un seul osa dire « Faisons sauter la place et mourons tous ensemble, en sauvant notre honneur. » On se mit à rire. On trouva fort originale l'idée du jeune officier. Mais chacun pensait à sa femme, à ses enfants, à son bien, et chacun espérait que l'ennemi lui laisserait au moins la vie sauve. D'ailleurs, il y avait parmi les chefs un certain nombre d'hommes qui avaient reçu des présents de l'ennemi, ou tout au moins de belles promesses s'ils décidaient la majorité à se rendre sans condition. Ceux-là rirent le plus fort, et l'héroïque jeune homme s'assit couvert de ridicule. Cependant, le président prit de nouveau la parole. Avant de prendre une décision si fatale, laissez-moi vous dire, messieurs, qu'un moyen de salut nous reste peut-être encore. Nos officiers du génie, en compulsant les archives de la forteresse, ont découvert, maintes allusions dans des manuscrits fort anciens, à un certain passage couvert qui, s'ouvrant au milieu même de la place, déboucherait en pleine campagne sur les derrières de nos ennemis. Mais, quelques recherches qu'on ait faites, on a pu retrouver ce passage secret. Si l'un de nous pouvait le découvrir avant l'assaut, qui va nous être livré tout à l'heure, et qui, je le crains, sera le dernier, nous serions sauvés. Et comme personne ne répondait, l'un des chefs, vendu à l'ennemi, dit « À quoi bon attendre ou chercher une issue illusoire? Si ce passage a existé, il s'est écroulé depuis longtemps. » N'oublions pas que si la forteresse est prise d'assaut, il n'y a de quartier pour personne. Sauvons nos vies pendant qu'il en est temps et rendons-nous sans condition, nous en remettant à la clémence des vainqueurs. On allait voter la funeste proposition et déjà plusieurs levaient la main quand un homme entra qui n'était point un officier. Il portait un vêtement d'ouvrier, mais son visage était empreint d'une indéfinissable majesté. Il s'avança vers le président. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous ? » lui dit sévèrement celui-ci. « Je suis l'un des vôtres. Je viens sauver votre vie et celle de la garnison. Vous avez parlé tout à l'heure d'un chemin caché par où vous pourriez sortir et attaquer l'ennemi par derrière. Je sais où se trouve l'entrée de ce chemin. » « Et comment le sais-tu ? » lui demandèrent-ils. « As-tu le plan des anciennes fortifications ? » « Mieux que cela, j'ai assisté à la construction de ces murs. J'en ai dirigé les travaux. » À ces mots, malgré la gravité de la situation, un éclat de rire universel éclata. « C'est un fou » s'écria-t-on. « Pauvre homme, comment pouvais-tu être présent puisque ces forteresses existe depuis plusieurs siècles. Avant que vos pères fussent, j'étais, répondit l'ouvrier, et son visage montra une telle splendeur, et l'on vit dans ses yeux une flamme si profonde, que plusieurs en furent étonnés. Cependant, les chefs vendus détachèrent quelques-uns d'entre eux pour prévenir l'ennemi qu'il n'y avait pas de temps à perdre, qu'un intrus venait d'arriver, qui pourrait rendre du courage à la place, qu'il fallait donner l'assaut tout de suite. Après quoi ils crièrent plus fort que les autres « C'est un fou ! C'est un fou !» Mais lui, se plaçant près d'une fenêtre, de façon à être entendu des soldats qui gardaient les portes et remplissaient les cours, éleva la voix. « Je vous dis qu'il y a un chemin pour sortir de ce lieu menacé. Je le connais, car c'est par là que je suis venu jusqu'ici. Comment, sans cela, pourriez-vous expliquer ma présence parmi vous ? Suivez-moi, je sais les desseins de l'ennemi, il ne vous fera aucun quartier. Ceux mêmes qui, sur la foi de ses promesses, se sont vendus à lui, seront réduits en esclavage. Les autres seront passés au fil de l'épée. L'assaut sera donné dans un moment. Je vois déjà leurs bataillons se mettre en marche. J'entends leurs trompettes victorieuses. Suivez-moi, suivez-moi. » Et parlant ainsi, il traversa la salle et la cour. Une multitude d'hommes le suivirent. En vain les traîtres voulaient-ils les retenir. L'amour de la vie était plus fort que tout. Il les conduisit dans un coin de la forteresse, en un lieu semé de tombes, un ancien cimetière, où l'herbe croissait en abondance autour des pierres tumulaires. Il s'approcha de l'une d'elles et leur dit d'un geste d'autorité « Ôtez la pierre !»« Quoi, c'est ici ? » s'écrièrent-ils. « C'est par une tombe que tu veux nous conduire à la vie ?»« Oui, leur répondit-il, car cette tombe a deux issues. Elle n'est pas semblable aux autres. C'est un long corridor sombre, mais la lumière se trouve à l'autre bout. Courage, entrez-y et marchez. » La pierre avait été roulée. Ils se penchèrent et virent un trou noir descendant obliquement dans les profondeurs du sol. On y pouvait descendre et y cheminer en se baissant. Beaucoup reculèrent alors et dirent « C'est impossible, nous ne voulons pas descendre là. Qui sait où cela nous mènerait ?»« À la vie, vous dis-je, entrez !» Il n'y a pas un instant à perdre, déjà l'ennemi est aux murailles. Sauvez-vous, sauvez-vous. Et toi, lui dirent-ils, allez les premiers, je garderai l'issue jusqu'à ce que vous soyez sauvés, leur répondit-il. Et comme les trompettes ennemies retentissaient, et qu'on entendait de toutes parts des cris de carnage, quelques-uns se décidèrent enfin à entrer dans le sombre corridor. Il était temps. Quand le dernier eut pénétré dans les trois passages, les ennemis, guidés par les traîtres, envahirent le cimetière. Ils entourèrent la tombe. « À mort !» crièrent-ils, et au bord de ce sépulcre béant, ils immolèrent celui qu'il avait ouvert pour le salut des autres. Cependant, les fugitifs étaient parvenus de l'autre côté. « Il nous avait dit vrai !» se répétait-il plein de joie. « Nous sommes sauvés !» Mais une pensée triste remplaçait aussitôt celle-là. « La forteresse est aux mains de l'ennemi, et notre sauveur lui-même, qu'est-il devenu ?» Ils se résolurent à un acte courageux. « Pendant que nos adversaires ne pensent qu'au pillage, attaquons-les à notre tour. Dieu soutiendra notre juste cause. » Ils firent ainsi. L'ennemi, étonné, entendit soudain retentir un cri de guerre derrière lui. Il n'avait pas achevé son carnage dans la place. Ceux qui résistaient encore reprirent courage à ce renfort inespéré. Et l'assiégeant se trouva pris entre deux feux. Et l'on vit soudain au premier rang des combattants l'homme qu'on avait cru mort. Il s'était relevé et semblait présent des deux côtés à la fois. Il avait ramassé le drapeau que les traîtres avaient fait tomber devant l'ennemi. Il l'élevait au-dessus de sa tête et les combattants pouvaient le voir flotter, gage et espérance de la victoire. Enfin, la bataille fut terminée. L'ennemi vaincu se retira en désordre, laissant les murailles et les cours jonchées de ses morts. Et les vainqueurs portèrent en triomphe leur sauveur jusqu'au lieu où s'ouvrait la tombe libératrice, et sur la pierre du sépulcre, ils le sacrèrent seigneur et roi de cette ville, dont il avait été deux fois le fondateur.